Eh bien, nous sommes très heureux, les membres de la CAT et les sympathisants, d'accueillir Claire Lee aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de venir à Narbonne à l'occasion de la journée départementale de la CAT. Merci à vous tous qui avez répondu à notre invitation. Mais avant de présenter Claire Lee, je voudrais dire quelques mots de notre association pour ceux qui ne connaissent pas encore l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et des exécutions capitales. Quelques mots seulement. Je soulignerai que la CAT est une association œcuménique. Je soulignerai que des chrétiens de toute confession, catholiques, orthodoxes, protestants, quakers, anglicans aussi ailleurs, peut-être pas encore dans l'Aude, eh bien, ils se sont engagés parce qu'ils ont la conviction que la torture est incompatible avec le message évangélique. Et enfin, je soulignerai que la prière est au cœur de l'action. Maintenant, vous me direz comment lutter contre la torture et les exécutions capitales. Eh bien, lutter contre la torture et les exécutions capitales, c'est tout simplement utiliser le stylo et maintenant le courriel, le courrier électronique. Je n'aime pas dire le mail. Hein? Et pourquoi nous écrivons? Tout simplement pour exiger des libérations, des procès équitables, l'arrêt de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et ceci en s'appuyant sur des déclarations ou des pactes signés par les États. Je rappellerai à tous que nous nous appuyons bien sûr sur l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Lutter contre la torture, c'est aussi être vigilant, et même en France. C'est faire évoluer les lois, c'est refuser l'impunité, c'est prévenir la torture. Et c'est donc accompagner des demandeurs d'asile qui risquent, si on les renvoie chez eux, la torture ou du moins de mauvais traitements. La tâche est immense, toujours inachevée. Mais quelle satisfaction quand des libérations sont obtenues, quand le droit international progresse, quand la peine de mort recule. Vous avez d'ailleurs une affiche là qui indique le recul de la peine de mort dans des pays d'Afrique. Donc tout ça, c'est notre combat. Je ne vais pas insister davantage. Je dirais simplement que toute personne peut adhérer à la CAT. C'est facile et difficile à la fois, mais il suffit de pouvoir écrire. Et même si on ne peut pas écrire, votre cotisation et votre prière soutiendra ceux qui peuvent en faire plus. Et c'est ainsi que quand nous nous rendons, je prends un exemple, à la préfecture, avec la coordination française pour le droit d'asile, eh bien c'est vous que nous représentons quand nous parlons aux responsables des étrangers. Et voilà pourquoi nous aurions besoin, bien sûr, de beaucoup de monde pour que notre action soit encore plus efficace. Je n'en dis pas plus. Je vais vous présenter Claire Lee. C'est elle que vous attendez. Et nous avons eu la chance de la rencontrer déjà. Je vous dirai que Claire Lee est depuis 1980 à Alès, dans le Gard. Vous êtes chargée de cours à l'Institut des sciences et théologie des religions de Marseille. Vous savez tous certainement qu'en 1975, les Khmers rouges deviennent les maîtres du Cambodge. Avec votre mère, Claire, et vos deux enfants, vous fuyez vers la Thaïlande. Mais les soldats de Pol Pot stoppent vite votre fuite. Vous avez passé 4 ans dans les camps Khmers rouges. D'ailleurs, vous racontez votre lutte obstinée pour la survie dans votre récit bouleversant, revenu de l'enfer, qui se trouve sur la table de plainte, vous ne pouvez pas taire votre haine et votre révolte, mais vous choisissez à un moment donné de demander des comptes au Dieu des Occidentaux. Pourquoi a-t-il permis tant d'horreurs ? Peu à peu, ce Dieu étranger devient un compagnon qui vous conduira vers une voie étonnante.
Alors merci, merci à Annie et merci à Akat. C'est la troisième fois que je participe à la réunion Akat. Et je suis toujours très heureuse de pouvoir travailler avec ce mouvement, cette action, parce que c'est une action qui lutte pour que l'homme soit vraiment homme. Ça, c'est beau, pour que l'homme soit vraiment homme. Avant de rentrer dans notre sujet, permettez-moi de me présenter. Annie m'a bien présenté, mais elle m'a présenté à la façon française. C'est normal. Et voyez à ma tête que je suis une Asiatique, une Cambodgienne. Alors, permettez-moi de me présenter à la façon cambodgienne, à la façon Khmer. Quand je dis Khmer, ça veut dire cambodgien. Parce que le Cambodge, son nom, c'est Kampuchea. Cambodge, c'est le mot français pour traduire Kampuchea. Et Kampuchea, ça veut dire, si je le traduis textuellement, ça veut dire le pays où il y a de l'or. Donc nous, nous appelons les Khmer, nous sommes les Khmer, et notre pays, c'est Kampuchea. D'où on parle des Khmer rouges, c'est-à-dire les Cambodgiens rouges. Le mot Khmer n'est pas péjoratif du tout. Voilà, la façon Khmer. Qu'est-ce qu'une femme Khmer peut dire quand elle se présente? C'est-à-dire, elle se présente toujours en disant ses deux grandes richesses. Et qu'est-ce qu'une femme Khmer a comme richesse? La première, c'est son âge. Parce que dans ces pays d'Asie, plus on a de l'âge, plus on est riche. Riche en sagesse. Et pour cette richesse-là, j'ai 60 ans. Donc, je commence à avoir un peu de sagesse. Et la deuxième richesse qu'une femme asiatique peut avoir, c'est le nombre d'enfants. Alors là, je fais partie de la classe pauvre, parce que pour être de la classe moyenne en Asie, il faut en avoir 5. En avoir 5, et moi, je suis arrivée qu'à 3. C'est un chiffre parfait, mais enfin. Voilà, donc moi j'ai un fils, un grand-fils de 33 ans, qui s'appelle Pierre Tira, qui est marié. Et j'ai une fille de 30 ans, qui s'appelle Marie Ratta, elle est mariée aussi. Et le dernier, c'est un garçon, qui s'appelle Laurent Borel. Celui-là, il a 27 ans, et il est à marier. Voilà, la publicité est faite. Et vous voyez, je suis arrivée en France en 1980. Et quand je suis arrivée en France, j'ai appliqué la politesse Khmer. C'est-à-dire, la politesse Khmer veut que quand on rencontre une personne, on dit bonjour, mais au lieu de parler, oh, il fait beau, il fait froid, il neige, il pleut, on dit son âge. Et si la personne d'en face oublie de nous dire son âge, il faut le lui demander. Donc, j'ai appliqué ça. J'ai demandé l'âge aux gens. Vous voyez, donc, avant de savoir que c'est une impolitesse très grande en France, surtout. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin que dans la politesse Khmer. Si la personne en face de vous vous dit, et vous, quel âge me donnez-vous? Alors, si vous pensez dans votre tête qu'elle a 40 ans, il vous faut ajouter 5 de plus. C'est tout à fait normal. C'est pour qu'elle soit plus riche. Donc, j'avais appliqué cette politesse-là dans mes cévennes. Alors, ça, c'est pas pour rien si on demande l'âge en Asie. Là, je vous amène pour que vous puissiez aborder un peu une autre culture. C'est pour quelque chose, parce que au Cambodge, on ne dit pas bonjour en tendant les mains ou en s'embrassant. Non. On se dit bonjour en mettant les deux mains jointes. Et comme tout ce qui est asiatique, tout est symbolique. Ces deux mains jointes représentent une fleur, la fleur de lotus, qui est la fleur sacrée du bouddhisme. Cher ami, quand je vous dis bonjour en mettant mes mains joints, je dis que cher ami, je vous offre une fleur. Et il y a plusieurs façons d'offrir la fleur. On n'offre pas n'importe comment. D'abord, il faut que la fleur, elle soit bien fermée, un bouton de fleur. On ne fait pas des doigts comme ça. Ça veut dire une fleur qui s'ouvre, ou les doigts comme ça, une fleur qui se fane. Ça ne va pas. Donc, il faut bien s'appliquer à fermer les doigts. Et si la personne en face de moi, elle a à peu près mon âge, je présente ma fleur ici, au menton. Je laisse là. Si elle est plus âgée que moi, elle a 5 ou 10 ans de plus, je monte ma fleur jusqu'au nez. Vous voyez? C'est dans cette façon-là qu'il fallait toujours vieillir l'autre. Et si elle a l'âge de mes parents, je dois monter la fleur jusqu'au front et je m'incline. Donc tout est symbolique. Voilà. Oh, je viens de ce pays d'Asie, le Cambodge, et je suis arrivée en France en 1980 avec mes 3 enfants. Et actuellement, je travaille avec l'Institut catholique de la Méditerranée. Je donne des cours sur le bouddhisme et philosophie de l'extrême-orient. Et sur le plan d'engagement, la foi, je fais partie de l'action catholique du milieu indépendant, qu'on appelle l'ACI. C'est là que je réfléchis sur ma foi. Nous venons donc à notre sujet. Le pardon, une valeur universelle avec un point d'interrogation. À cette question, dans les pays de tradition judéo-chrétienne, tels que notre pays, la France, on a tendance de répondre très vite par l'affirmatif. Oui, le pardon est une valeur universelle. Souvent, on répond très vite et sans aucune réserve. Selon un philosophe très connu, un philosophe français qui vient de nous quitter en octobre 2004, qui s'appelle Jacques Derrida, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui est connu mondialement. Selon Jacques Derrida, on confond souvent, et parfois de façon calculée, le pardon avec des thèmes voisins, tels que l'excuse, tels que le regret, tels que l'amnistie, tels que la prescription. Vous voyez. Donc déjà, nous devons poser la problématique du pardon. Et dans ce siècle de mondialisation, Annie le sait très bien, en militant pour l'ACAT, une organisation telle que l'ACAT, qui est appelée à travailler dans tous les pays du monde, qui se trouve confrontée, si vous voulez, avec d'autres cultures, qui sont, pour certaines, très différentes de la culture judéo-chrétienne. D'autres cultures qui sont différentes de notre culture européenne, occidentale. On ne peut pas faire l'économie d'une réflexion approfondie sur ce que c'est que le pardon. Alors, vous qui travaillez pour l'abolition de la torture, de la peine de mort, le pardon se trouve donc au centre de votre réflexion, vous, les membres de l'ACAT. Et vous ne pouvez pas mettre de côté des grandes questions, des questions humaines, telles que, qu'est-ce que le concept de pardon? D'où vient-il? S'impose-t-il à tous et à toutes les cultures? Et à quelles conditions peut-on accorder le pardon? À qui l'accorde-t-on? À qui et au nom de quoi et au nom de qui? Pour les personnes qui travaillent dans la CAT, ces questions sont les vôtres. Mais pour nous tous aussi qui ne sommes pas dans la CAT, c'est aussi notre question. Parce que le pardon concerne pour chacun de nous le vivre ensemble. Parce que le pardon est une étape pour construire ce vivre ensemble, si je parle comme ça. Et dans la réalité concrète de la vie, on rencontre toujours des situations difficiles qui nous blessent, qui nous mettent par terre, qui nous déshumanisent. Alors, la question « Jusqu'où peut-on pardonner ?» devient cruciale. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans cette réflexion, moi je ne fais qu'aborder, que survoler la question. Mais ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez des livres à lire, tels que celui de Jacques Derrida sur foi et savoir, le pardon, le siècle et le pardon. Vous avez aussi le livre de Hannah Arendt, qui est un philosophe, une philosophe juive, qui parle de responsabilité et jugement. Elle a beaucoup d'impact aux États-Unis d'Amérique.